La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Eh bien, la dernière émission, vous avez rencontré quelques femmes artistes russes qui, au début de ce XXe siècle révolutionnaire pour leur pays, sont passées par différentes phases émotionnelles, matière à expression, pour leur créativité. Alors, l'âme russe ou l'âme slave, ainsi fidèle à sa réputation, a pu et su expérimenter avec brio ces différents états qui entraînent une âme exaltée d'un extrême à l'autre, car des plus hauts sommets où règne la félicité, elle est redescendue tout aussi rapidement dans la profondeur abyssale où la désespérance l'attendait, afin d'honorer l'ultime rendez-vous programmé par le régime bolchévique communiste, c'est-à-dire la mort. Bon, c'est la mort du corps avec les exécutions, mais c'est aussi la mort de l'âme, peut-être, dans les goulags ou camps de travail. Alors, parmi ces femmes au sein de ce peuple russe, dont le destin est désormais entre les mains du dictateur, une poétesse russe dont le nom de plume est Anna Akhmatova, de son vrai nom Anna Andreevna Gorenko. Elle est reconnue comme une grande poétesse russe du XXe siècle. Or, celle-ci est née en 1889 et réussit à vivre assez longtemps pour décéder en 1966 à l'âge de 76 ans. Alors, elle est née dans un milieu aisé et écrira très tôt de la poésie à l'aube de l'adolescence. Elle fera ses études dans un lycée de jeunes filles, apprendra le français, fera son droit et rencontrera celui qui deviendra son mari. Également un poète russe nommé Nikolai Goumilev, avec qui elle aura un fils, qui deviendra lui-même connu et réputé en tant qu'historien et qui se nomme Lev Goumilev. Alors Nikolai Goumilev sera avec d'autres poètes nommés Sergei Gorodetsky ou Ossip Mandelstam, le fondateur d'un mouvement poétique appelé l'acméisme, duquel Anna Akhmatova se rapprochera sans être partie prenante totalement à ce qui est dit. Et ce courant fera des émules et s'imposera dès 1910. Alors de quoi s'agit-il ? Alors il est dit que ce nom tire son origine du mot grec akmé, qui signifie pointe, comble, apogée. Et d'après ce que j'ai compris, l'acméisme forge son langage poétique sur les expériences de la vie quotidienne. Et celui-ci reste compréhensible et en lien donc avec la réalité vécue du quotidien. Alors à cette époque, différents courants poétiques se confrontent. Et d'après Anna Akhmatova, que j'ai entendue sur une vidéo YouTube qui lui est dédiée, et intitulée « Rare documentaire » en français, elle affirme qu'en 1910, le symbolisme est sur la fin et qu'avec le début du futurisme, l'acméisme voit le jour. Alors l'acméisme, avec son lien au concret de la vie, s'opposerait au symbolisme et à ses évocations abstraites et suggestives d'une réalité impalpable et supérieure. Mais il semblerait que l'acméisme ne se coupe pas pour autant de valeurs esthétiques, voire transcendantes. Alors à noter que le symbolisme aurait été le courant dominant dans la poésie russe, que je ne connais pas bien car les traductions m'ont toujours gênée en poésie. Et lorsqu'elle va à Paris avec son mari, elle relève que la poésie est négligée et elle dit d'ailleurs « la peinture parisienne avait dévoré la poésie ». Mais elle nourra des liens avec des artistes, hein, des poètes, aussi des peintres, et notamment une rencontre qui laissera trace puisqu'elle concerne Modigliani à l'époque où il était très pauvre et n'avait aucun succès. Et tous deux parlaient à ce qu'il paraît de poésie en évoquant surtout les poètes français comme Mallarmé ou Baudelaire, hein, entre autres. Et à cette époque, Modigliani s'est plu également à la prendre comme modèle en la dessinant. Alors la caractéristique de cette femme, c'est qu'elle exprimait dans ses paroles, dans partie de sa poésie également, beaucoup de nostalgie, de peine, voire de souffrance. Mais c'était aussi quelqu'un qui savait partager des moments de légèreté, au dire de certains. Alors il faut dire qu'à part quelques voyages, elle est restée en Russie toute sa vie et qu'elle incarna au travers de son langage poétique la vérité de sa langue en diffusant une certaine idée de l'âme russe en dehors de tout ce bouillonnement révolutionnaire. Alors elle a subi les persécutions du régime soviétique, du régime stalinien, lorsque celui-ci a succédé à Lénine fin des années 20. Et nombre de ses écrits sont d'ailleurs en relation avec les contraintes, les privations endurées et les douleurs subies à ces époques, dont on peut appréhender la portée au travers de l'un de ses poèmes célèbres, intitulé « Requiem », écrit en 1940, et qui évoque ces périodes sombres. Poème que l'on peut lire, voire entendre sur Internet pour ceux que cela intéresse. Alors en 1921, son mari Nikolaï Goumilev, dans le collimateur du parti, est fusillé, accusé de félonie contre le régime. Son fils se trouve également dans la tourmente puisqu'il sera inculpé et déporté plusieurs fois. Il échappera quand même à la mort. Bon, elle-même sera interdite de publication pendant plusieurs années. Elle sera même insultée par les dirigeants. L'un des collaborateurs de Staline n'hésitera pas, à ce qu'il paraît, à la traiter, bon, et je le lis, de nonne ou de putain, ou plutôt à la fois une nonne et une putain qui marient l'indécence à la prière. Bon, paroles bien évidemment qui définissent parfaitement le niveau d'éducation et de sensibilité du personnage et que les âmes sensibles sauront apprécier à leur juste valeur. Bon, elle opposera un acte de résistance qui sera de supporter, de souffrir dans son pays en refusant l'émigration qu'elle aurait considérée comme une trahison de sa part envers la culture et la langue russe. Alors elle se remariera encore deux fois en 1918 avec un poète, historien de civilisation ancienne nommé Vladimir Chileïko, dont elle se sépara quatre ans plus tard. Puis ensuite avec un historien d'art nommé Nikolaï Pounine, qui subira le destin tragique du premier mari, puisqu'il finira sa vie au goulag, victime de la répression stalinienne. Or pendant ce temps, interdite de remuer le petit doigt en tant qu'élément bourgeois, Anna Akhmatova gagne laborieusement sa vie avec des traductions de grands littérateurs, en souffrant de la faim, de la précarité, obligée de partager dès 1929 un tout petit logement avec le parent de l'un de ses maris, le critique d'art Pounine et sa femme, que le fils ralliera entre deux arrestations. Alors comme vous pouvez le constater, c'est la belle vie. Alors la guerre en Europe apportant son lot de tragédies pèsera d'autant plus sur son âme qu'elle apprendra que tous les Français rencontrés lors de ses voyages à Paris ont été tués. Et comme le dit son fils, malgré qu'elle ait commencé à écrire sur l'amour et des sujets plus légers pendant sa jeunesse, eh bien sa poésie a évolué pour évoquer des expériences plus douloureuses où des êtres malmenés souffrent et ont peur. Bon, cependant, il décrit aussi sa mère comme quelqu'un qui aimait le contact humain et parlait en bonne compagnie de littérature et de poésie. Et elle aimait inviter et se montrait plutôt sous un jour agréable et généreux. Alors dans sa réclusion, elle a gardé des liens avec le poète acméiste nommé Mandelstam, qu'elle avait rencontré en 1911 et qui faisait partie de ce cénacle de poètes rattachés au mouvement et qui malheureusement pour lui subira également un destin semblable à ceux de ses autres compagnons incarcérés malgré des tentatives de ses amis pour lui porter secours, Anna Akhmatova compris. Alors, peine perdue. Exclue, reléguée, errant avec son épouse en attente de sa sentence, eh bien, il finira par décéder d'épuisement et de maladie en 1938 à l'âge de 47 ans. Et il aura eu le temps d'écrire à ses amis poètes, et je vous le lis, c'est plutôt cynique. « Je suppose que je ne devrais pas me plaindre, j'ai la chance de vivre dans un pays où la poésie compte, on tue des gens parce qu'ils en lisent, parce qu'ils en écrivent. » Ça veut tout dire. Alors pendant ce temps, Anna Akhmatova subit avec son fils le déchaînement de jalousie et de critique. En prime, elle qui disait qu'elle mourrait à l'idée de que sa vie pouvait être piétinée. Eh bien, sa vie est piétinée, mais sa créativité féconde, même si c'est le tragique de l'existence qu'elle nous donne à lire et à entendre. Et il suffit de lire ou d'écouter son poème « Requiem ». Voir également le Carnaval des ombres ou Sans héros, et d'autres encore, sans compter les correspondances et les mémoires. Et après plusieurs crises cardiaques, avec un cœur bien malmené par la vie, qui lâchera enfin à l'âge de 76 ans, dans son pays, la Russie, elle recevra quand même quelques hommages posthumes, car elle possède l'aura d'un personnage de roman qui inspirera d'autres créateurs, bon, ce qui la fera connaître d'autant plus. Et elle sera ainsi le personnage d'une pièce créée par Alma de Groen, une dramaturge australienne, ou le sujet d'un opéra à son nom composé par Bruno Mantovani en 2011. Elle apparaît aussi au détour d'une chanson intitulée « Fièvre résurrectionnelle » du français Hubert-Félix Thiéphen et un poème intitulé « Insomnie » d'un auteur nommé Marina Tsvetaïeva lui est dédié, et même un cratère et un astéroïde porteront son nom. Et bien des peintres immortaliseront cette femme au port de Rennes et à l'allure hiératique qui aura su assumer son tragique destin avec dignité. Mais que diriez-vous d'écouter un peu de musique pour digérer tout cela ? Bon, de la musique d'accord, mais de la musique composée par une artiste russe, une créatrice nommée Sofia Gubaidulina, née en 1931, et qui est encore de ce monde. Elle a composé symphonies, concertos, musique de chambre, musique de film. Elle s'est formée au conservatoire de Moscou et deviendra dans les années 50 l'assistante du compositeur russe bien connu Shostakovich. Et place maintenant à Sofia Gubaidulina qui nous propose une sérénade à la guitare composée en 1969. Thank you. Or, je n'ai pas encore mentionné, et je vais le faire maintenant, la femme de lettres, critique littéraire, inlassable militante des droits de l'homme, Lydia Tchoukovskaya, née en 1907, et qui, outre le fait qu'elle fréquenta quelques années Anna Akhmatova, publia un recueil d'entretiens qu'elle eut avec elle sur un quart de siècle et qui parut en 1980 en France. Alors, cette personne souffrit également des dérives du régime, bon, vous vous en doutez vu le personnage, mais aussi parce que son mari, brillant physicien, chercheur en gravité et électrodynamique quantique et astrophysique, fut aussi exécuté par le régime. Bon, ce qui change un peu des artistes, hein, mais ne règle pas le problème de fond. Bon, là, ce sont des cerveaux, apparemment plutôt performants, à qui le régime dut reprocher, sans doute au nom du peuple, hein, bien évidemment, de fonctionner un peu trop vite ou trop bien, et rebelote, hein, si je puis dire, avec un petit coup de peloton d'exécution, et l'affaire est vite classée. Bon, je deviens peut-être un peu cynique moi aussi, mais bon, c'est presque nerveux. Et Lydia Tchoukovskaya échappa de justesse au même sort. Elle écrivait cependant, hein, et militait en se cachant, en se terrant même, et publia ainsi La Maison déserte, intitulée également Sofia Petrovna, qui s'est voulu témoignage après enquête sur les victimes du régime stalinien. Et en dehors de cela, elle prit aussi parti, grâce à sa plume, pour des écrivains russes comme Pasternak, Solzhenitsyn, Sakharov, entre autres, et dénonça les abus, car comme vous le savez, ou vous vous en doutez, ceux-là ont goûté, non pas aux joies, mais aux affres de la prison, du travail forcé, enfin bref, tout ce que le régime prévoyait et avait concocté, hein, pour ceux qui sortaient du chemin obligatoire. Et elle décédera à Moscou à l'âge relativement avancé de 88 ans, et je suis presque étonnée qu'elle ait réussi à vivre si longtemps. Alors restons avec nos dames écrivains et rencontrons Zinaïda Hippius, qui est une poétesse symboliste russe, écrivaine, critique littéraire et féministe de surcroît, née en 1869. Donc là, je reviens un peu en arrière. Bon, c'est aussi parce que c'est une personnalité singulière qui aimait s'habiller en homme et qui, avec son mari, l'écrivain Dimitri Mereshkovski, qu'elle épouse à 19 ans, apparaît comme une fantaisiste, une représentante du courant symboliste russe qui prône, on va dire, une exaltation de l'âme apte à côtoyer le divin. Alors, ce couple de la fin du XIXe siècle, symboliste de surcroît, s'intègre dans cette période décrite comme celle de l'âge d'argent, période qui voit émerger une nouvelle vague d'écrivains et de poètes russes et qui fait suite à la période du début du XIXe siècle dite de l'âge d'or. Alors il est vrai que la littérature russe, que je connais mal, hein, je l'avoue, est extrêmement prolifique. Enfin, quoi qu'il en soit, l'artistique dans son ensemble en Russie, à l'âge d'argent, est en effervescence et on voit émerger de nombreux artistes dont la renommée pour la plupart sera internationale. Alors Zinaïda Hippius, avec son mari, va côtoyer toute l'élite littéraire russe de l'époque. Et elle publiera essais et poésies dans les revues littéraires en vogue, comme dans Le Messager du Nord ou dans Le Messager de l'Europe, et dans d'autres revues russes réputées, encore pour y publier ses critiques littéraires, d'autant plus qu'elle fera salon, si je puis dire, en accueillant, conseillant, inspirant, corrigeant bien des littérateurs qui se tourneront vers elle pour quérir ses avis et impressions. Alors elle et son mari voyageront également beaucoup, feront toujours de nombreuses rencontres littéraires. Elle passera par l'Europe et notamment la France et l'Italie. Et quoi qu'il en soit, c'est une digne représentante de l'esprit russe de son époque, liée au symbolisme, avec un état d'esprit très engagé sur les questions philosophiques, empreinte d'une spiritualité, d'une religiosité même, censée transcender le charnel. Alors début XXe siècle, les événements sociopolitiques l'obligent en quelque sorte à prendre position, le couple se sent impliqué dans ce qui est en train de se jouer dans l'histoire de leur pays. Ils prennent position au départ contre le gouvernement autocrate, hein, monarchique, pour se ranger du côté des révolutionnaires et publient à tour de bras des articles dans des revues. Bon, Zinaïda publiera notamment des pièces de théâtre dont les sujets sont des révolutionnaires russes. Bon, c'est par exemple la pièce intitulée « La couleur du pavot ». À ces époques, dans les années 1905-1910, le couple fait des navettes entre la Russie et Paris, en partie à cause de la santé fragile de Zinaïda, bon, ce qui ne l'empêche pas de publier de nombreuses œuvres traduites dans des langues différentes, notamment en français. Bon, toujours de la poésie, des articles de presse. Bon, je vais vous donner quelques titres. Alors, en 1907 apparaît Le Tsar et la Révolution, Le Pantin du Diable en 1910, Le Règne de l'Antéchrist en 1922, entre autres. Alors, toutes ces œuvres incarnant idées et états d'âme de l'artiste à ces époques. Alors, autant elle fut, comme tant d'autres, favorable à ce renouveau révolutionnaire qui changeait la donne en faveur d'une majorité, autant elle déchantera par la suite jusqu'à détester tout le système bolchevique qu'elle critiquera et dont vous pouvez vous donner une idée en lisant, bon, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, « Journal sous la terreur » qui fut publié en France aux éditions du Rocher en 2006, hein, pour qui cela intéresse. Alors, que s'est-il passé pour elle et son mari par la suite? Eh bien, ils émigrèrent en 1920, passèrent par la Pologne pour arriver à Paris et y vivre jusqu'à la fin de leur existence. Aussi, Zinaïda y décédera en 1945, à l'âge de 76 ans. Mais à Paris, elle continuera ses activités d'écrivaine, de poétesse, fondera un cercle philosophico-littéraire où toute la richesse de la culture russe sera proposée et diffusée jusque hors des frontières françaises. Et il semble également qu'elle verra plutôt d'un mauvais œil tous les événements sociopolitiques mondiaux de l'époque. Bon, il ne faut pas oublier que la guerre, et notamment 39-40, sévit partout en Europe. En tout cas, sa fin de vie sera assombrie certainement par les guerres et les privations qui en découlent. Et ce seront les mots de la fin, car mon temps de parole est bientôt terminé. Ben, je vous ai présenté trois femmes, dont deux poétesses, l'une symboliste, l'autre plutôt acméiste, plongée dans la tourmente bolchevique. Nous allons donc quitter maintenant les écrivaines russes pour mieux les retrouver la prochaine fois. Et je vous donne donc rendez-vous pour de nouvelles aventures sur la voie des arts.
La voie des arts, présentée par Christine Darboux. We'll be right back.